88.3.
Radio Campus, Radio Campus.
Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
Radio Campus, Radio Campus.
Avez-vous autre chose à dire, monsieur l'écrivain tout nu, ou pouvons-nous continuer notre route?
Radio Campus, Radio Campus.
Ce sont des êtres humains à part entière. Ils sont là pour permettre d'atteindre un nouveau stade de développement spirituel.
Ça alors, c'est incroyable.
88.3.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir chers auditeuristes, bonsoir, vous êtes bien sûr Radio Campus Orléans et c'est maintenant l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et cette émission, je ne la fais pas toute seule, évidemment, heureusement, je suis bien accompagnée. Et là, vous êtes quatre ce soir, super. Eh bien, bonsoir Gob.
Bonsoir, je profite de la fête qui vient de passer le 14 février pour dédier cette émission à tous les amoureux et toutes les amoureuses du cinéma.
Allez, bravo. Claude, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous.
Arnaud.
Bonsoir tout le monde.
Et Vincent.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Céline.
J'espère que vous allez bien.
Oui. Je suis ravi d'être de retour dans l'équipe.
Oui, bah oui, oui. Oui, parce qu'on s'est déjà vu la semaine dernière, bon, sans toi Gob, et donc là on se retrouve ce soir avec plaisir tous ensemble pour continuer nos chroniques et puis pour t'écouter aussi toi Gob, parce que tu as vu pas mal de films et on a hâte d'avoir aussi ton avis sur certains films, parce qu'on en a discuté de certains, mais au contraire, enfin, on veut bien aussi avoir ton avis, voilà, il y a quelques films qui seront donc en doublon de la semaine dernière, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en introduction avant? Il y a eu des décès.
Ah oui, voilà.
Il y a eu des...
C'est un peu la tradition.
Notamment, je te laisserai la parole sur le décès du grand documentariste.
Oui.
Alors, je ne suis pas au courant.
Frédéric Weisman.
Frédéric Weisman.
Sérieux? Ah
bah oui.
Oh là là,
ces hommes étaient très âgés, hein, parce que il avait plus de 90 ans, 95, je crois. Robert Duvall aussi. Et il y a juste Tom Noonan que j'adore et qui est un peu plus jeune. Mais voilà. Trois décès en moins de 24 heures.
Nous ne pourrons plus sentir l'odeur d'une napalm
le petit matin.
Voilà.
Au petit matin.
Et,
voilà.
Et moi, je voulais juste faire un petit puisqu'on est dans la nécrologie malheureusement, à Rob Reiner.
Oui aussi, c'est vrai.
Voilà, c'est comme un réalisateur phare des années 80-90, et on lui doit quand même au moins 4 films cultes. Quand Harry rencontre Sally. C'est 2 adaptations de Stephen King, Stand By Me et Misery. Un film moi que j'adore, qui a pas eu pour moi le succès qu'il méritait à l'époque, mais qui est devenu un film un peu culte aussi, qui s'appelle Princess Bride.
Ah oui.
Et pour finir, last but not least, un film absolument épatant que vous pouvez revoir à l'infini et vous rigolerez toujours autant. C'est un film qui s'appelle Spinal Tap, qui est son premier film, qui est un faux documentaire sur l'histoire d'un groupe de hard rock. Mmh. Et je vous assure, regardez Spinal Tap si vous voulez, dans ces périodes un peu troublées et pas toujours très gaies. Passez-vous Spinal Tap, je vous assure que vous allez avoir un grand moment de rigolade et de musique en plus.
Mais effectivement, ils tombent comme des mouches, c'est terrible.
Pour Frédéric Weisman, on pourrait pas se faire une émission spéciale un jour.
Mais
il y a,
oui,
il y a de quoi faire. Hein.
Il y a énormément, effectivement, ce documentariste américain qui a énormément fait pour ce cinéma. Bon, donc on ne va pas en parler ce soir. Et c'est bon, il n'y a pas eu d'autres décès.
En cinéma, non. Pour l'instant, non.
A priori, non.
Non.
Ok. bon, eh bien.
Revenons à la vie.
Oui. Et reprenons donc les chroniques. Du coup, Gob, toi, tu as vu Le Gâteau du Président.
Oui, c'est le gâteau est tout frais. Je l'ai vu ce matin.
T'as encore de la crème tout autour de la bouche.
J'ai encore un peu de crème.
Alors, dis-nous ce que t'en as pensé. Parce que du coup, on en a parlé la semaine dernière.
Apparemment, oui.
On a tous vu. Enfin,
vous l'aviez tous vu.
Pratiquement ici, là.
Très bien. Alors, je ne retirerai pas donc, que le film a eu la caméra d'or, oui. au précédent Festival de Cannes. Moi, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé les deux interprètes. Ces deux jeunes interprètes sont vraiment parfaits. On s'attache à eux pratiquement tout de suite. Après, on se laisse porter par cette histoire. Il y a tout ce qui tourne effectivement autour du culte du chef, du culte. Là, on est vraiment Saddam Hussein, c'est le dictateur avec un grand D. Hein. Il est partout. Et ça, je pense que le film restitue très très bien.
C'est
ça.
C'est même ton maître d'école.
Oui. Le film restitue très. Et puis cette ambiance, effectivement, de flicage permanent. Voilà, on pourrait être dans la Russie actuelle. On pourrait être dans n'importe quelle dictature contemporaine. Voilà. Après, moi, oui, j'ai trouvé que le film est bien construit. L'histoire tient, soutient l'intérêt de bout en bout. Et puis, il y a effectivement le charme de ces deux jeunes interprètes. La grand-mère est un personnage vraiment épatant aussi. Il y a effectivement ce regard sur cette société masculine où cette gamine croise des gens vraiment pas très bien, mais où elle a aussi, et ça c'est très bien, la chance de croiser un homme altruiste et qui se dévoue aux autres, et ben voilà, c'est aussi un rayon de soleil dans cette histoire. Voilà, donc moi, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film tout à fait réussi et dont duquel on sort avec du plaisir.
Bah je crois que ça rejoint un peu ce que vous aviez pu dire la semaine dernière, effectivement. C'est un film vraiment à voir, qui est un cinéma politique et qui est important aussi à voir aujourd'hui, en ce moment. Ouais. Et vous ne voulez pas rajouter autre chose ?
Non. C'est un premier film et qui est extrêmement bien, je l'ai dit la semaine dernière, réussi. Il y avait plein d'écueils dans son cinéma, dans sa réalisation, il les a tous évités. Il a fait une vision très crédible de ce qu'a été et de ce que vivait l'Irak pendant la guerre avec les États-Unis.
Non, tout à fait.
Oui. La petite histoire d'un grand.
Oui, exactement. Oui.
Et est-ce que, Claude, tu as vu d'autres films que tu n'as pas parlé la semaine dernière ? On n'a pas fait le point.
Oui, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu ? Aucun autre choix.
Ah oui. Tu l'as vu. J'ai prévu de le voir demain.
Le Parson Walk.
Moi, je l'ai ce week-end aussi.
En parler plus tard. Moi, je vais vous dire, ici, nous avons des gens qui adorent beaucoup Park Chan-wook. Moi, je... Sur ce film-là, voilà mes remarques. D'abord, c'est un hommage à Costa Gravas,
qui avait fait le
film Le Couperet avec José Garcia. Bon. Là, il fait un film... Alors...
Tu ne nous spoiles pas.
Hein. Comment ?
Tu ne nous spoiles pas.
Non. Il fait un film beaucoup trop long. L'exposition, il montre une famille heureuse. Mais on montre une famille heureuse, on peut y passer une heure et demie. Hein. On peut y passer 5 minutes, on peut passer que 2 minutes. On va comprendre tout de suite. Et là, ça insiste.
On est dans le temps asiatique, Claude, n'oublie pas ça.
Oui. Alors justement...
On n'est pas dans le roman américain de Westlake. On est dans le temps asiatique.
Et c'est pour ça que je te poserai la question quand tu auras vu le film à la prochaine émission. Qu'est-ce qu'il y a effectivement de la culture coréenne dans ce film ? C'est ça que je voulais savoir. Je ne connais pas la culture coréenne. Donc, j'ai pas compris. Donc, pour moi, il y a un mélange des tons... Alors, il y a des gens qui... J'ai lu les critiques après. C'est familier, on mélange les tons. Mélanger les tons, oui, pourquoi pas. Mais à quoi ça sert ? Mais j'ai pas la réponse. À quoi ça sert de mélanger les tons ?
Ah, c'est pas forcément utile, hein.
Mais des fois ça fonctionne parfaitement bien.
Je dis pas que ça fonctionne pas, mais
il y a un autre grand réalisateur coréen qui s'appelle Bong Joon-ho qui fait à merveille.
Oui. Alors justement, quand on mélange les tons, pour moi on s'éloigne de l'intention. Bon, je sais pas, Vincent.
Ah oui, mais je pense qu'on est un peu peut-être que sur le formel. Moi, c'est un peu ce que je reproche à Park Chan-wook depuis quelques années et ses derniers films, c'est d'être plutôt formaliste et pas assez fond. Enfin, alors qu'il avait les deux bien plus imbriqués à l'époque de Old Boy ou etc. Alors, moi, c'est ma période préférée où les Lady Vengeance, enfin Sympathy for Mr. Vengeance, enfin cette triptyque-là qui était très fort. Depuis, j'ai moins suivi, j'ai moins adhéré.
Après, moi, je suis pas.
Ah, j'ai pas vu, hein, donc je peux pas parler.
Je suis pas complètement d'accord avec toi dans le sens où, par exemple, le dernier, là, Decision to Live.
Ouais, j'ai pas vu.
Moi, j'ai été. Je me rappelle avoir été scotché de la première à la dernière seconde par la mise en scène. Pour moi, c'est un des rares réalisateurs contemporains
très beau,
où tu as quasiment une idée par plan. T'as quasiment une idée de mise en scène par plan. Et alors, t'en as qui disent c'est trop effectivement de formalisme. Mais quel metteur en scène à notre époque, ils doivent peut-être se compter sur les doigts d'une main, arrive à avoir autant d'idées de mise en scène dans un seul film. Oui. Et à te scotcher quasiment en permanence.
Bah c'est ce que tu confirmes ce que je disais tout à fait au début. L'exposition, il faudrait que je le revoie une deuxième fois pour voir le nombre de séquences qu'il fait pour nous montrer une famille heureuse. Mais il aurait pu faire tout le film là-dessus. Et le film n'aurait jamais démarré.
On verra.
On en rediscutera du coup à la prochaine émission.
C'est pour ça que j'en dis pas plus. Moi, ça me... J'ai moyennement, pour tout dire, moyennement. Moi, je suis très attaché à des films qui sont soit très linéaires et qui ont une intention, et on se tient à cette intention, on creuse les personnages, mais on... sinon...
Bon, et pourtant, t'as adoré L'Agent Secret.
Oui, mais
alors que... Bon,
c'est pas un film très formaliste aussi.
Oui, mais L'Agent Secret, il n'y a pas d'erreur de ton, on est toujours sur le même ton.
Ouais, parce qu'on change de temporalité.
La seule chose qui est... La seule chose, c'est qu'effectivement, il faut comprendre qu'il y a une mise en scène qui part, il faut comprendre ça dès le départ, de deux jeunes filles qui refont des recherches et une analyse de la situation au Brésil sous la dictature.
Oui, pour l'agent secret.
Pour l'agent secret. Donc, c'est à partir de... Alors, bien sûr, il y a plein de feedback, il y a des... Mais je veux dire, c'est compréhensible. Enfin, pour moi, c'était compréhensible. J'ai pas.
J'avais pas le bon décodeur.
Mais... Moi, les changements de ton, moi, je veux bien. Mais
on nous reposera le débat, Claude.
Qu'est-ce que ça apporte? Bon, je veux bien.
Eh ben, on en discutera parce que je crois qu'on a tous envie d'aller le voir, ce dernier Park Chan-wook. Donc aucun autre choix. Et oui, on en parlera. Eh bien, ensuite, avant de faire une pause quand même, on va peut-être parler d'un autre film qu'on a déjà vu. Je vais de nouveau te faire parler, Gob. C'est Hamnet, hein, de Chloé Zhao.
Qui est une de tes réalisatrices préférées, me semble-t-il.
Attention à ce que tu vas dire.
Ah, je me suis engagé à aller le voir et je ne l'ai pas vu. Je voulais le voir dimanche dernier. J'irai dimanche prochain. Ouais. Ouais.
Ok, bon. Tu nous diras la prochaine fois.
Alors, Hamnet. Bon, alors, on va commencer par les trucs gentils.
Céline.
Franchement, c'est un beau film. Moi, j'ai trouvé que c'était pas complètement accompli. Bon, il y a, on va dire, le dernier tiers du film, la scène finale, elle est sublime. Il y a des moments extraordinaires, notamment dû à cette actrice qui j'espère aura l'Oscar, je sais plus le nom de cette actrice.
Jessie Buckley,
voilà, qui est. Il y a des scènes, notamment ces scènes d'accouchement. Enfin, il y a des scènes d'une intensité incroyable. Après, moi, je trouve que pour moi, il y a des moments, c'est quand même un peu trop. C'est un petit peu too much par moment, dans le mélo, dans le lyrisme.
T'aimes pas pleurer.
Si, à la fin, c'est difficile. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, Céline. À la fin, c'est difficile de retenir l'émotion tellement elle vient nous la chercher. Mais
oui, comme moi, Gob, il aime bien quand les cailloux qui saignent. Il pleure quand il y a un caillou qui saigne. On est pareil, tous les deux.
Non, mais c'est vrai que... Il y a une scène finale, c'est vrai qu'en termes d'émotion, il y a une montée, il y a quelque chose de l'ordre du lyrisme, d'un lyrisme total, qui à ce moment-là fonctionne à plein. Il y a d'autres moments dans le film où je trouve effectivement que et le lyrisme et le mélodramatique sont, à mon avis, c'est un petit peu too much pour moi. Voilà. Après, je sais qu'il y a énormément de critiques qui applaudissent le film à tout rompre. Il y en a d'autres qui sont effectivement un peu moins convaincus. Voilà. Moi, je pense qu'il faut prendre une position entre les deux. Ça reste, je pense, une grande réalisatrice. Elle l'a prouvé déjà. Elle a un vrai sens de la mise en scène. Moi, par moments, j'ai retrouvé quelque chose de, et ça c'est vraiment un super compliment, du Bright Star de Jane Campion, notamment de toutes les scènes dans la nature, dans la forêt, dans les paysages, ben voilà, la manière de jouer de ça. Et puis voilà, moi je pense que ce qui emporte le morceau, effectivement, c'est cette interprétation totalement habitée et exceptionnelle de Jessie Buckley, et puis effectivement ce long final qui pour moi est une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma depuis, en termes d'émotion, effectivement, Céline, qui est une des plus belles choses que j'ai vues depuis longtemps. Voilà.
Alors, j'ajoute, parce que c'est un film qu'on a, on n'a pas vu ensemble, on était simplement les seuls à avoir vu ce petit film sur les États-Unis où c'est l'histoire d'une jeune fille qui va avec son collège pour fêter la fin de son cursus. Et elle s'échappe et elle passe. Et là, il y a une actrice qui est là, qui est complètement magnétique. Tu te souviens de cette actrice? Oui. Et là, Jessie Buckley, c'est C'est une, elle est pas magnétique. Elle est, je veux dire qu'elle a une présence énorme. Alors que notre actrice, qui est une étudiante, je crois, qui a 20 ans, elle était magnétique. Je veux dire qu'on avait, on la voyait, on avait envie d'aller vers elle. Alors que Jessie Buckley, on n'a pas trop envie d'aller vers elle, puisque c'est, je veux dire, elle est je veux dire, c'est une présence, c'est une masse.
C'est elle qui vient vers toi, en fait.
C'est elle, oui, tout à fait. C'est, et c'est deux femmes qui sont, enfin, je veux dire, qui sont des grandes actrices. Enfin, je veux dire que dans Hamnet, là, c'est elle qui tient le film. Hein, c'est dire, c'est.
Oui, 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 effectivement, elle tient le film. Bon, après, il y a les enfants aussi qui jouent incroyablement bien. Enfin, il y a quand même une direction. J'ai l'impression une direction d'acteur et d'actrice qui est quand même assez impeccable, et il y a la mise en scène. Enfin, moi, pour moi, il y a tout qui fonctionne. Donc, je ne vais pas refaire ma chronique.
Les rares plans que l'on voit dans la scène finale où elle voit effectivement la représentation théâtrale d'Hamlet. Les seuls moments où elle est à l'écran, ça y est, on oublie Hamlet et on voit qu'elle. Je veux dire, c'est
oui, même... finalement, c'est presque anecdotique le fait que ce soit Hamlet.
Oui,
tout à fait. Et je trouve que ce qui est aussi intéressant, c'est le travail de cette. Enfin, de montrer une relation de couple aussi qui est différente. Je trouve que c'est quelque chose avec une bienveillance, une écoute, et qu'on ne voit pas assez au cinéma, je trouve. Et donc, ça fait aussi du bien de voir ce type de relation respectueuse. Eh bien, je vous propose une pause musicale et on va écouter un morceau de la bande originale du film À pied d'œuvre de Valérie Donzelli, que tu as vu aussi, mais tu vas nous en parler aussi après. Donc, on écoute Photosouvenir, une BO qui a été composée par Jean-Michel Bernard, et on revient juste après sur Radio Campus Orléans. Voilà, c'est un court morceau de cette bande originale du film À pied d'œuvre, réalisé par Valérie Donzelli, et donc la BO créée par Jean-Michel Bernard. Et je crois qu'il n'y a que toi, Gob, qui a vu le film, il me semble, oui. Si tu veux en dire quelques mots.
Alors, À pied d'œuvre, c'est un film très très intéressant. Valérie Donzelli, donc actrice et réalisatrice, je crois qu'elle doit en être à son sixième film, je crois, quelque chose comme ça, cinquième ou sixième. Oui, puisque précédemment, il y a eu Notre-Dame, il y a eu La Reine des Pommes, il y a eu le dernier, c'était L'Amour et les Forêts avec Efira. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, Valérie Donzelli. Et là, elle a fait un film qui est parfaitement dans l'époque. Je m'explique. En fait, donc, c'est tiré du roman d'un écrivain qui s'appelle Franck Courtès, qui raconte sa propre histoire. Et en fait, Franck Courtès, donc, c'est quelqu'un qui était photographe, qui est un mec qui gagnait très bien sa vie comme photographe de presse, et qui, un jour, décide d'écrire. Et donc il veut devenir écrivain, il a un premier livre qui est remarqué, un deuxième aussi, mais il n'arrive pas vraiment à décoller au niveau des ventes. Donc en fait il nous explique à un moment du reste, le début du film, il nous explique qu'il touche en droit d'auteur 250 euros par mois. Le reste du temps, bah, comme il veut pouvoir écrire, eh ben, il rentre de plein pied dans notre magnifique époque libérale, c'est-à-dire qu'il s'inscrit sur un site qui s'appelle Jobber. Alors, je ne sais pas si ça existe dans la réalité, mais je pense qu'il doit y avoir des choses approchantes, et où effectivement des gens vendent leurs services, style Allo Voisin, tu vois, pour aller faire des tâches diverses et variées chez des particuliers. Et en fait, le truc, c'est que en fait, on tire vers le bas, c'est-à-dire que c'est celui qui propose qui va se vendre pour le, entre guillemets, pour le moins cher, qui va gagner, si on peut dire, l'enchère et aller travailler. Et donc ce type qui gagnait très bien sa vie, de tous, va se retrouver presque comme un nouveau pauvre, un mec qui va vivre avec pas grand chose et qui va être dans ce truc, je vais me consacrer à mon écriture. Et alors ça donne effectivement un film assez curieux, parce que il y a une vraie critique de la société libérale très 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 prégnante et très juste, parce que on voit effectivement toutes les dérives d'un certain libéralisme, toute une sorte d'esclavage moderne de gens. Il y a des scènes extraordinaires où il va chez des gens qui on voit ces gens qui sont là, qui ils trouvent presque normal que le mec soit là à s'échiner pour rien. C'est un peu comme le gars qui vient livrer les pizzas et qui se fait engueuler parce qu'il arrive 3 minutes en retard. Tu vois, on est quand même dans cette société là. Et donc le film décrit ça très bien. Et en même temps, il arrive à nous mettre là-dedans un humour ironique. Alors, ça doit beaucoup à Bastien Bouillon, hein, qui est un acteur qu'on présente plus maintenant, qu'on voit beaucoup dans le cinéma français depuis maintenant quelques années, qui est impérial dans le rôle de cet écrivain. Et donc ce type va quand même petit à petit écrire, et arriver quand même à écrire en passant dans toute une série de tout ça donne une série de sketchs, en fait, tous ces gens chez qui il va. Et à l'arrivée, il va, alors qu'il est à bout de course, qu'il est complètement en train de perdre pied, que son éditrice le lâche, et tout, il va avoir tout d'un coup cette... et je vous dis pas comment, mais parce qu'il faut voir le film pour ça, il va avoir ce truc d'écrire sur cette histoire, sur ce qui lui arrive, et là, il va redécoller, rencontrer le succès, et se relancer dans le monde littéraire. Mais c'est, franchement, c'est un très beau film. Claude, qui souvent est à la recherche de scénarios très bien écrits, là je peux te dire que c'est un scénario une adaptation de Donzelli et de Gilles Marchand, qu'on fait un travail remarquable, et en plus c'est porté par des acteurs qui sont tous très très bons, et le film, franchement, ça roule, ça avance, tu sors avec la sensation d'avoir vu un film drôle et intelligent, et par les temps qui courent, c'est pas si fréquent.
Oh, merci.
Je confirme.
Merci, ça donne envie d'aller le voir, évidemment. Arnaud, Vincent, vous avez vu des films depuis la semaine dernière ?
Un seul film qu'on a vu hier soir.
Allez, c'était quoi ?
C'est le dernier Sam Raimi, ça s'appelle Send Help, appelé à l'aide, enfin donner. Alors c'est une comédie noire, bien sûr, Sam Raimi, on ne le présente plus, hein, pour la plupart, les gens le connaissent surtout pour avoir adapté deux fois Spider-Man en début des années 2000, même trois fois, je suis vrai.
Oui,
avant ça, il est connu surtout pour avoir signé quelques films d'horreur parmi les plus inventifs, quelque part. C'est bricolé dans les années 80, le fameux Evil Dead, le label Evil Dead. Mais bien après, il a fait d'autres choses, il a fait des comédies dramatiques, des choses un peu, il a fait pas mal de choses. Et là, il revient avec un film qui est une comédie noire, une comédie d'acteurs, pour le coup, avec deux acteurs, un acteur et une actrice. Rachel McAdams, on ne la présente plus. Hein. Elle, c'est une grande, grande actrice qui jouait dans Spotlight, entre autres, dans des rôle super sérieux, et là elle est à contre-emploi total, et ça c'est un vrai plaisir, c'est une sucrerie, c'est-à-dire qu'elle est très drôle dans une comédie, et c'est un film avec plusieurs histoires. Hein.
Elle est pas toute seule.
En face d'elle, voilà, il y a un mec qu'on connaissait moins.
Dylan O'Brien.
Qui est très très drôle aussi.
Inconnu, enfin pour moi en tout cas. Pas, hein. Apparemment il est peut-être plutôt dans des séries, ouais, etc.
Et donc les deux s'en donnent à cœur joie sur un sujet qui est assez multiple, parce que si on veut faire un pitch très très rapide, ça démarre par un film dans l'univers de la jalousie de bureaucratie et d'accession à des pouvoirs, puisque le personnage joué par McAdams, on lui a promis en fait une place importante dans le bureau, enfin dans la boîte, et elle se retrouve évincée parce qu'elle a pas le look qu'il faut. En gros, c'est une jeune femme qui est seule, qui est qui adhère à des idées type survivaliste ou fan de Survivor, donc elle adore tout ce qui est nature, on va dire.
Pour le regard de ses collègues, c'est une inadaptée sociale, quoi.
Voilà, elle solide. Elle est vraiment un peu bizarre.
Et elle est de fait écartée en plus.
Alors que c'est une tête, en vrai.
D'accord, des préjugés sur, oui, sa, sur
exactement.
Cette tenue.
Et de fait, son patron, c'est un jeune patron qui vient d'avoir le poste, qui est le fils du père, en gros, c'est ça. Hein. Lui, il a méprise d'emblée. Et il se retrouve à devoir aller pour lui donner quand même quelques billes, pour que ce soit. Parce que elle mena...
C'est-à-dire qu'elle a un sursaut quand même
d'exaspération.
D'exaspération, enfin, face à cet emploi qui lui avait été promis, de toute façon, en plus. Et donc elle essaye de faire valoir ses droits et ses compétences, et pour la mettre un peu au défi, parce qu'en fait il s'en fout complètement. Disons que c'est pour faire mémuse encore un peu avec elle.
C'est cruel.
Il l'emmène sur une fusion acquisition qui se passe en Thaïlande,
en Indonésie,
quelque chose comme ça. Mais bon, c'est aussi un prétexte pour la faire trimer encore plus, qui est quand même assez dégueulasse.
Pour peut-être son fruit, son travail, mais pour en gagner la gloire, en fait. Elle serait dans l'ombre. Et en fait, ils sont à bord d'un avion, et puis il y a un crash. En pleine mer. Donc là, on est dans un film de catastrophe, d'un coup. Et il y a deux survivants à bord de l'avion, parce qu'ils étaient 5-6. C'est elle et le mec qu'elle déteste le plus, c'est-à-dire son patron arrogant, sur une île déserte. Et bim, là, ça change. Et puis alors, comme elle a bossé à mort, survivre, elle a voulu participer à des jeux concours type Survivor, ça lui va bien. Une île déserte, elle se débrouille tout de suite en 48 heures. Elle a fait son abri, elle a fait tout à bout à l'eau avec les coques. Enfin, c'est très drôle pour ça, c'est burlesque. Mais lui, il en chie, bien sûr, parce qu'il est incapable, il casse un ongle, il chiale, quoi. Donc, on est sur une nouvelle position de force. Et là, le film démarre vraiment à ce moment-là. Et donc, après, on va pas le révéler parce que monsieur.
Nous allons voir quelqu'un qui trépigne d'impatience.
Voilà, donc on va pas vous révéler évidemment les différents rebondissements, mais je vais vous dire que c'est caustique, c'est drôle, ça se regarde sans peine.
Oui, non, c'est alors évidemment ce qu'on a expliqué un peu là, c'est des ficelles qu'on peut voir dans pas mal de films, etc. Il se trouve qu'avec Sam Raimi,
c'est après que ça devient beaucoup plus intéressant.
Ouais, exactement,
c'est le postulat de départ.
Il va pousser les curseurs
dans le rouge
un peu partout, et des fois là où on l'attend pas forcément. Il y a d'autres fois où on l'attend et on s'en fait plaisir à voir.
Ouais.
Donc c'est effectivement une comédie noire horrifique. Oui, peut-être un peu parfois.
Ouais.
Qui fait vraiment plaisir. J'oserais dire que c'est rafraîchissant.
Ouais, c'était rafraîchissant, clairement. On s'est bien marré.
Franchement, j'ai bien aimé.
On a bien aimé. Voilà.
Oh, dis donc.
Ok.
Et le film qui était parti plus ou moins pour se casser la figure, là, de ce que j'ai lu sur un des postes d'un site ciné, a tendance à remonter.
Ouais. Tu vois.
À bien remonter.
La semaine dernière, je vous avais recommandé d'aller voir le voyage de Teresa. Personne n'a été voir le voyage de Teresa.
Non, pas eu le temps.
Vous êtes trop jeune.
Mais pas du tout.
J'ai déjà les dimanches à rattraper. Enfin, bref.
Non, pas du tout.
Les dimanches.
Mais...
Et je vous encourage toujours à aller voir ce film.
Oui, c'est prévu, c'est dans ma liste de to-do list. Mais super, décidément, que des bons films. Il y en a plein des shortlists, mais celle des films, en tout cas, il y a les voyages de Teresa, je t'assure, Claude. Et bien, super. Moi, je voulais vous parler aussi d'un autre film que j'ai vu. C'est le dernier film de Kelly Reichardt, The Mastermind. Oui. Moi, j'aime beaucoup
ta deuxième réalisatrice préférée.
C'est certainement, oui. j'adore son cinéma. C'est une cinéaste américaine. Et j'aime son travail parce qu'elle cherche à déconstruire les codes du cinéma et pour donner un autre regard en fait sur notre société et surtout sur la société américaine. Et là, du coup, je rappelle aussi qu'elle a notamment réalisé First Co, qui a plutôt bien marché. Mais son avant-dernier, c'était Showing Up. Il y a eu La Dernière Piste aussi. Enfin, voilà, des films que je vous invite vraiment à voir. Et donc, là, The Mastermind, donc, c'est son 9e long métrage. Et elle va casser les codes du film de braquage. Et elle nous montre, donc elle met en scène un anti-héros qui s'appelle JB et qui est interprété par Josh O'Connor, qui est presque lunaire et qui va organiser le vol des œuvres du peintre Arthur Dove dans un petit musée qu'il fréquente régulièrement avec sa femme et ses enfants. Et en fait, parallèlement, il va organiser ce braquage. Et en fait, elle met, Kelly Reichardt, elle met en scène ce film dans les années 70. Donc, il y a la photographie qui est très vintage, les tenues, les décors d'époque. Il y a aussi les manifestations contre la guerre du Vietnam. Donc, voilà, on est vraiment dans l'époque des années 70. Et elle met en fait en place les étapes classiques d'un film de cambriolage, et repérage, organisation, recrutement. Mais une fois que c'est fait, et ben ça dérape. Hein. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'écriture du film change. Et elle prend le temps. En fait, elle prend le temps de filmer chaque action que va faire le personnage. Et du coup, ça va aller, Claude. tu respires, oui. Et du coup, le fait qu'elle prenne le temps de filmer les actions, ça apporte une tension, une autre tension au film qui est même parfois burlesque, mais c'est ce qui permet en fait de voir ce personnage dans des situations un peu pas évidentes, mais et qui en fait rend les codes de la masculinité, mais qui d'habitude est pleine d'assurance, bah ça casse, ça c'est voilà, c'est pas du tout, ça montre finalement que ce personnage, ce père de famille n'est qu'un gamin.
Et du coup, juste pour avoir l'info, il veut braquer pour l'argent ou pour le... quel est l'argument? Parce qu'on ne sait pas trop, en fait.
Je te laisserai aller voir le film.
D'accord. Il y a plusieurs pistes possibles, en fait. Voilà. D'accord.
Oui, et c'est justement ça aussi, parce que pendant tout le film, vu que tu as des scènes qui sont très longues, et tu réfléchis justement pourquoi il fait ça, et de comment ça va se passer, pourquoi il fait sous cette forme-là, pourquoi il cache les œuvres par là. Enfin, tu te poses des questions, t'as du temps en fait, et c'est ça c'est ce que j'aime dans le cinéma de Kelly Reichardt, c'est que voilà, elle propose autre chose et qui donne des tensions différentes au film. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est que ce père de famille qui est issu d'un milieu privilégié, qui tente de s'affranchir de son père, qui est juge, et d'une mère qui lui signe un chèque dès qu'il a besoin. Du coup, c'est un garçon, mais il ment comme un enfant. Il sait même pas ce qu'il fait, en fait. On voit sa femme qui, au final, elle est peut-être bien contente de se débarrasser, en fait, de ce troisième enfant. Et donc, après, c'est un film qui a quelques longueurs qui peuvent perturber, mais c'est justement ce que j'expliquais, c'est que ça donne justement la place aux spectateurs et spectatrices de se questionner sur le personnage et sur les scènes.
Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que pour avoir vu les précédents films de Kelly Reichardt, c'est vrai qu'elle est toujours à la limite, je trouve, en termes d'étirement des scènes et tout. Elle est toujours à la limite, et c'est vrai qu'il y a qu'elle qui fait ce cinéma-là, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que moi, je me rappelle notamment de First Co,
ouais.
Où moi, je me rappelle avoir vraiment eu du mal. Vraiment, il y a eu des moments dans le film où j'étais à deux doigts de décrocher, vraiment, en me disant c'est plus possible, là, il faut qu'elle arrête. Là. Et je me rappelle en avoir discuté après, je ne sais plus avec qui je l'avais vu, et on en avait discuté après, on était vraiment, les autres personnes avec qui j'avais vu disaient, ah ouais, mais c'est épatant, c'est justement ce travail sur la et tout, et donc on n'était pas forcément d'accord, mais ce qui en ressortait, c'est qu'il y a une vraie patte, il y a un vrai style Kelly Reichardt, ça on peut pas le nier, et c'est vrai, du coup, comme tu le disais, qu'elle essaye d'aborder, finalement, elle change de genre pratiquement à chaque film, et à chaque film, elle essaye à chaque film, elle donne ce style qui lui est parfaitement propre, et ça, pour ça, on peut dire quand même que c'est une vraie auteure.
Ou autrice. Mais je suis d'accord, tout à fait. Donc je vous incite à aller le voir, parce qu'en plus, c'est des films qui se voient plutôt sur grand écran. Si Claude, c'est bon, tu.
Pauvre. Moi, j'ai vu. Je peux en parler, j'ai vu Les Immortels.
Ah, très bien.
Et je suis resté... C'est la conversation, d'ailleurs, qu'on avait avec Xavier en arrivant. C'est tous ces auteurs qui s'inspirent de leur propre vie pour faire des films. Bien. Moi, j'ai rien contre. Je le vois à l'écriture de scénario où les gens, à part deux qui ont vraiment eu, sont vraiment dans la fiction, les autres s'inspirent de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. La question que je me pose, c'est que, d'ailleurs je le pose à Valérie Carnoy, quelle distance arrive-t-on à mettre en ce qu'on a vécu et le scénario qu'on va faire? Parce que à un moment, un scénario, c'est pas n'importe quoi. Ça a une structure, ça répond à des normes, et ce qu'on a vécu ne peut peut-être pas s'adapter à cette structure et à ces normes. Donc comment fait-on? Bien.
Et de quoi parle ce film alors?
Alors ce film parle de deux jeunes filles très amies dans leur vie, qui rêvent, qui sont en province, qui rêvent de monter à Paris pour faire de la musique. Et malheureusement, alors, il y en a une qui décède, bien. Elle décède, mais alors, là aussi, je trouve
ça interrompt sa carrière, du coup.
Je trouve que la mise en scène est vraiment d'une pauvreté à un moment. On la voit, je vais le dire, ce qu'on voit, elle joue au basket et elle s'écroule et elle est décédée.
Ah, dis donc.
Alors, c'est peut-être la réalité, ça. Bah,
ça peut arriver.
Oui, ça peut arriver. Mais peut-être que si on fait du cinéma, hein, Arnaud, on peut peut-être voir les choses autrement. S'écarter de ce qu'on a vécu pour faire une fiction. Et ça n'empêche pas de... Comment on supporte cette mort, comment on vit après. C'est ça, ce film. Et alors, il y a vraiment... Alors, c'est peut-être vrai, mais à un moment, sa copine tente de se suicider.
Ça peut arriver.
Je veux dire, ça peut arriver. c'est vraiment, on tombe dans le cliché. Enfin, pour moi, on tombe dans le cliché. Je veux dire, on tombe dans le cliché.
Ah, mais du coup, tu trouves que c'est pas crédible, en fait.
Mais c'est peut-être exactement ce qu'elles ont vécu. Mais
c'est trop chargé, c'est ça.
Porter à l'écran, on fait quand même un film.
Après, peut-être, peu importe que c'est du vécu ou pas. Disons, le plus important, c'est ce qu'elle en fait dans un film.
Exactement, c'est ce qu'elle en fait.
Il y a peut-être fiction aussi dans.
Alors, j'avais lu aucune critique. Alors, je lis après qu'effectivement, c'était ce qu'elle avait vécu. Bon, moi, je veux bien. Et ensuite, les critiques sont dithyrambiques, c'est d'une sensibilité.
Oh, ouais, non, t'as pas aimé.
J'ai pas aimé. Enfin, je veux dire, sur des thèmes comme... Je veux dire, vous pas aimé le film qu'on a vu tous les deux, qui doit être islandais.
Oui, In the Light Breaks.
Voilà. Ah, In the Light Breaks, ouais. Okay.
C'est quand même...
Oui,
le film, ça parle de ça, mais alors, moi j'ai trouvé que c'était...
Bon ben, n'allez pas voir Les Immortels.
Si, allez-y, parce que vous aurez sûrement un avis différent que du mien. Mais moi j'ai trouvé que c'était quand même... C'est malheureux de dire ça, mais je trouvais que c'était pauvre.
Et même dans le jeu des actrices, parce que je vois qu'il y a Emmanuelle Béart qui...
Oui, elle fait la maman, Emmanuelle Béart. Bon, elle est bien, Emmanuelle Béart. C'est pas... Non, mais ce que... je veux dire... Bon, elle est dans tous les clichés dans ce film, c'est un peu... c'est ce que je... Puis la mise en scène, pour fond, la voix s'écrouler au basket, elle est morte. Bon, peut-être que même c'est ce qui est arrivé, peut-être qu'on aurait pu présenter sa mort autrement. Enfin, je veux dire, bon, alors j'aimerais bien que... parce que ce film a quand même été très défendu par des
professionnels de la profession.
Par des professionnels, oui.
Les
professionnels de la critique, oui. Bon, j'ai pas lu toutes les critiques, mais je suis sûr d'en trouver qui vont aller dans mon sens. C'est évident. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, dans les critiques de cinéma, chez les professionnels, il y a une mansuétude. Faut pas exagérer. On ne voit pas les films à l'heure actuelle qu'on voyait il y a 10 ans. 10 ans, c'était d'une autre qualité.
Il y a quand même des films qui sortent du lot quand même aujourd'hui, hein, qui sont aussi d'une très grande qualité. Enfin, tu vois, on a parlé de Hamnet, notamment. Enfin, mais
ils sont français, ces films.
Ah, alors tu parles du cinéma français.
On va pas rentrer dans le débat.
C'est mon sujet en ce moment. À formater les gens, on ferait mieux de développer leur talent qu'on leur coller la FEMIS, c'est formaté. Le CEA, c'est formaté. Arrêtons, développons le talent.
Oui, effectivement. Mais justement, dans le cinéma français, Gob, tu as vu un film français.
Oui.
L'affaire du Bojarski, de Jean-Paul Salomé.
Qui est un très bon film. Qui est un film de ce fameux cinéma du milieu dont on parle souvent.
Qui m'est très cher.
Ce que j'appelle moi le cinéma du milieu, c'est-à-dire ce cinéma français qui n'est ni exceptionnel ni médiocre, qui est juste au bon endroit, c'est-à-dire un cinéma bien fait, bien écrit. Là, on est vraiment là-dedans, bien interprété. Franchement, il y a un casting impeccable. Pierre Lottin, Reda Kateb dans le rôle principal, Sarah Giraudot, ils sont tous, ils sont Bouillon encore,
Bastien Bouillon
ouais. encore, excellent dans le rôle du flic. Alors là, on est dans une histoire vraie, alors que moi je connaissais pas personnellement, donc j'ai découvert avec le film de ce Bojarski, donc qui est un émigré polonais dont la famille a immigré au moment de la Deuxième Guerre mondiale pour échapper au nazisme. Et en fait, ce type, il est hyper doué. C'est un type qui est une sorte d'artiste du billet de banque et qui devrait entrer à la Banque de France. Du reste, il essaye, mais ce type, il se fait recaler partout, bah parce qu'il est polonais, parce qu'on lui reproche de pas bien parler français, parce qu'on lui reproche de pas bien écrire, parce qu'on lui reproche ci et ça. Et ce type, il va aller vers le banditisme, et puis après, il va, moi ça a mal tourné à ce niveau-là, et il va se installer un atelier dans son garage, et il va pendant des années et des années fabriquer des faux billets. Qui va écouler. Enfin, après, il a tout un système qui se met en place. Et ce flic va le poursuivre pendant des années et des années. Ce flic qui, petit à petit, va l'admirer parce que c'est un type bien. À côté de ça, il fait le bien à côté de lui. Et c'est le gars. Il va avec ses faux billets. Il va aller acheter son pain. Puis en sortant de il va filer des croissants au clochard du coin. Il va voilà. Et c'est ça le personnage. Et ce type, on va suivre son évolution et pendant des années, et l'histoire est tout le temps prenante, passionnante. Le Kateb, c'est un super acteur, il est investi à fond dans le rôle. On sent à quel point ce personnage d'émigré qui a du mal à se faire accepter, tout l'a touché, le concerne, c'est du vrai scénario bien écrit, bien dialogué. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais on sort de ce cinéma-là. On disait, le cinéma français, il ne se porte pas forcément très bien. Et donc, ça, c'est des films qui peuvent être vus c'est de qualité, en même temps, ça peut toucher un public finalement assez large. Et voilà, pour moi, c'est des films qui, même si là, le film ne fonctionne pas si mal, il est encore à l'affiche. C'est ce genre de film qui devrait repropulser un peu le cinéma français. Et qu'ils ne le font pas forcément.
Et bien merci. Donc l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé, donc un film français. Voilà qui.
La norme française, monsieur. NF.
Alors dans les chroniques, oui, on arrive à la fin de l'émission et il reste. Alors je m'étais noté, donc il y a Dreams que tu as vu aussi, Gob. Tu voulais aussi dire quelques mots sur Avatar, il me semble, qui est encore à l'affiche.
Oui, vous en avez parlé, je pense.
On n'a pas encore vu.
Moi, je l'ai vu.
Ah ouais. Vous en avez parlé, Céline?
Non, je crois pas. Non. Arnaud et Vincent, vous avez vu d'autres films?
Non, on a vu que celui-là. Enfin, on a vu que le Sam Raimi, c'est tout.
Bah, allez le voir.
Oui, on va y aller.
C'est dans ma to-do list. Eh bien, écoute, Dreams de Michel Franco.
Oui, alors, Dreams, alors là, c'est, finalement, c'est on est quand même dans une époque qui engendre des films qui parlent avec, on va dire, acuité de cette époque. Là, tout à l'heure, je parlais du film de Donzelli. Là, on n'est pas si loin parce que c'est l'histoire d'une femme, on va dire, qui appartient à ces 1% de la population qui détiennent 90% des richesses de la planète et qui généralement se trouve aux États-Unis, ce qui en l'occurrence est le cas du personnage principal joué par Jessica Chastain, qui est une super actrice qu'on a plus vue depuis un petit moment là. Donc elle joue effectivement cette femme qui elle dirige en fait une sorte de, comme font souvent ces gens qui ont beaucoup d'argent, qui est une espèce d'institut plus ou moins qui promeut des jeunes artistes, des danseurs, des peintres et tout. Et avec le, effectivement, elle fait tout ça avec l'argent de son père, hein, qui est un méga, méga riche. Et à cette occasion, elle va dans des pays, on va dire, elle va au Mexique notamment, où elle, où son père met de l'argent dans une école de danseurs, où c'est des jeunes danseurs, notamment des gens sont issus de. Et là, en l'occurrence, elle va rencontrer un jeune danseur mexicain qui est issu, on va dire, de la rue. Hein, et comme on dit, c'est comme disent les jeunes maintenant, ça va matcher. Et donc, elle va avoir une relation charnelle avec très intense avec ce jeune danseur. Et alors, bon, après, j'en dirai pas trop sur l'histoire. Il y a des choses qu'il faut voir. Il y a notamment des choses très cruelles qui vont se mettre en place. Un jeu de séduction et de cruauté entre ces deux-là qui va aboutir à un truc. Alors là, il faut absolument rien en dire, mais voilà, il y a un dernier tiers du film qui est absolument étonnant dans ce qui se noue entre les personnages. Mais ce qu'il en ressort, c'est, alors Michel Franco, il est connu hein, il fait des films qui sont très critiques et très cruels et même souvent très crus et souvent violents sur justement le fossé entre certaines classes sociales et la manière dont des fois les plus faibles vont prendre le dessus sur les plus forts avec violence. Et là, on est dans le dernier tiers du film, on est encore un peu là-dedans, mais tout ça est amené d'une façon très subtile. Et puis après, effectivement, voilà, c'est porté. Jessica Chastain, elle est parfaite. Mmh. Franchement, dans ce rôle de bourgeoise qui se veut. C'est la caricature des milieux woke américains, tout, mais c'est tellement juste. Il y a des moments où on sent tellement le décalage entre ce type qui débarque dans ce milieu et à qui on fait tellement bien sentir, tout en lui mettant bien de la vaseline autour, parce qu'on est quand même des gentils woke, donc on met de la vaseline, mais en même temps on te fait bien sentir à quel point t'as rien à faire chez nous. Et donc tout ça est tellement bien.
C'est des woke, c'est peut-être juste c'est des bobos peut-être.
C'est des bobos woke, c'est des voilà. C'est les gens qui ont permis à Trump de gagner la dernière élection.
Mais c'est pas des woke alors.
si.
Non, c'est pas des woke.
Et du coup. Voilà, ça va se terminer dans un grand bain de cruauté et c'est du Michel Franco 100%, mais c'est extrêmement bien joué, c'est avec une mise en scène tendue, ça te prend à la gorge et le final est d'une cruauté glaçante. Et voilà, après c'est un cinéma, il vaut mieux savoir quand même dans quoi on met les pieds avant d'y aller.
Mais c'est souvent très cruel et très violent, Michel Franco. Il faut se souvenir de Despès de Lucia, qui était un grand film, et c'est d'une violence. La violence, je veux dire, qui se voit très très facilement au cinéma. Hein. C'est un peu comme dans Sirat, le frein à main, hein, c'est pareil.
Ah ouais, ça, cette scène-là, on va la garder en tête
pendant le livre.
Ouais. Effectivement, il nous a fait beaucoup de mal. Et bien voilà, Dreams, donc de Michel Franco. Donc allez voir.
Je crois qu'il y a encore quelques séances.
Ok.
Je crois, mais je suis pas certain.
Il faut que j'aille absolument le voir.
Et bien alors vite, oui, effectivement, parce qu'il est sorti fin janvier, et c'est vrai que ça dure pas longtemps.
Bah, c'est un film qui marche. Pour un coup.
Ok. Mm-hmm. Tu dis qu'il marche, d'accord, très bien.
Oui, dans les salles. Ah oui, Grand Ciel, ça n'a pas fait des spectateurs. Hein.
Mm-hmm.
Pourtant, c'est.
Non, mais j'aurais pas dit Dreams, j'en ai pas entendu parler, donc c'est pour ça. Mais non, mais tant mieux.
Bah après, moi, j'y suis allé parce que j'ai vu les films précédents de Michel Franco,
oui,
c'est un réalisateur dont j'aime bien le travail.
Mm-hmm.
Ouais, après, je pense que c'est pas un film qui a forcément été extrêmement médiatisé. Hein.
Ouais, c'est ça. Mm. Est-ce que décidément
Avatar,
est-ce que tu veux dire quelques mots parce que moi j'avais pas du tout prévu d'en parler de Avatar troisième épisode.
Écoute moi, alors moi je fais partie de la grande famille des spectateurs qui avaient eu du mal avec le précédent.
Moi aussi.
Trop long. Beaucoup trop long, beaucoup trop de scènes d'exposition.
Beaucoup d'autocitations.
Beaucoup d'autocitations. Mais là, franchement, pour moi, le 3, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Moi, je trouve qu'il a redressé la barre, Cameron. Ça reste quand même, avant tout, on sait très bien, ça sera jamais un grand scénariste. Ça, maintenant, on le sait. Ça fait plus de 20 ans, ça fait bientôt 30 ans qu'il fait des films, donc on le sait, ça c'est acquis. Les gens qui continuent à lui tirer dessus à ce niveau-là, je pense que c'est un peu une sorte de combat d'arrière-garde, mais bon. Mais là, ça reste quand même un immense cinéaste d'action. Et pour moi, il y a quand même, dans cette troisième partie d'Avatar, il y a une scène d'action dans le premier tiers du film et le tout dernier tiers du film où il nous fait son habituel triple, voire quadruple climax. Et moi, je trouve que c'est quand même bluffant. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai entendu, dans n'importe quel blockbuster américain, t'as ce genre de choses et tout. Ben non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que n'importe quel blockbuster américain ne bénéficie pas forcément d'un réalisateur de la trempe et du niveau de James Cameron. Et là, moi, c'est vrai que j'ai vu, moi, dans ce film-là, effectivement, il y a au moins une heure de plus d'action dans ce film qui, pour moi, me scotche à mon fauteuil. Vraiment. Et où je me dis, moi, quand je sors du film, je me dis, mais quand même, j'ai eu raison d'aller le voir au cinéma. J'ai eu raison d'aller le voir en 3D, parce que c'est pareil. La 3D qui, maintenant, n'est quasiment plus utilisée, qui était ce gadget, à un moment donné, auquel pratiquement tout le monde a renoncé, Cameron, il continue à penser, à tourner ses films en fonction de la 3D. C'est pas un gadget pour lui. C'est vraiment un parti pris esthétique dont il tire quand même un excellent parti. Donc, voilà, moi, pour moi, il a vraiment redressé sa barre. Faudra voir ce qui va suivre. Mais là, on est quand même face à un grand blockbuster d'action extrêmement bien réalisé. Et franchement, tu sors en te disant que T'as pas perdu tes 3 heures, ce que je m'étais dit en sortant du précédent.
Effectivement, t'as raison de dire que dans la 3D, aujourd'hui, on peut parler de gadget, alors que effectivement, chez James Cameron, lui, depuis le début avec Avatar, il utilise vraiment cette technique pour la mise en scène, et ça apporte effectivement un plus et dans ces paysages, et en plus d'année en année, il y a des progrès technologiques, et donc les décors, les paysages sont de mieux en mieux travaillés. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, au niveau du scénario, c'est qu'on a un peu tout le temps la même chose, quoi. C'est y a un méchant, donc là c'est une méchante. C'est la cata, tout le monde meurt, enfin une partie, et heureusement qu'il y a des survivants pour il y a la résistance qui est là, et puis chouette, quoi, ça repart. Bon, c'est un peu tout le temps. Pardon, je simplifie un peu.
C'est bien résumé, c'est
non, mais c'est... Non, mais t'as raison, hein, t'as tout à fait raison.
Si vous aimez l'univers d'Avatar, c'est bien de continuer, parce que oui, il y a toujours cet intérêt de la technologie et de la 3D. N'allez pas le voir en IMAX, c'est pas forcément nécessaire.
Mais... Et là, non, mais t'as tout à fait raison, parce que je sais pas toi, mais moi je l'ai vu en HFR, en 3D HFR, et je sais que mon journal favori, Mad Movies, conseille à chaque fois de les voir en HFR 3D et surtout pas en IMAX.
Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que HFR, je pense que c'est High Frame Rate.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est donc une obturation plus rapide pour certaines séquences, pour éviter la saccade, le format grand format.
Ouais. C'est ça. Et je pense que c'est effectivement les meilleures conditions pour
voir.
S'il y a des gens qui vont encore le voir, je pense qu'il y a de moins en moins de séances, ça c'est fini.
Ouais.
Forcément.
C'est maintenant que je devrais y aller en théorie quand il n'y a que 4 Pékin dans la salle. C'est là que
c'est là que tu peux y aller.
Ouais. Ouais. Pour râler tout seul, bougonner tout seul. En place B13. Pardon.
Eh bien, merci beaucoup. Donc c'est la fin de cette émission et donc on.
La prochaine, c'est dans 15 jours pour le coup.
Oui, le 11 mars.
Voilà.
Ouais, okay, c'est 11 ça. Mars. Mercredi 11 mars, prochaine émission en live sur Radio Campus Orléans. J'en profite juste pour donner juste la date d'un festival là, qui va avoir lieu au cinéma des Kermes, un festival de films documentaires Fenêtre sur le Japon qui va avoir lieu du 4 au 6 mars. Voilà, comme le 11, ça sera passé.
J'ai aussi un truc à dire. Au Kermes aussi. Alors c'est lundi prochain à 19h. Si vous n'aimez pas le lundi, avec Graffiti Cinéma, qui est une asso qui est très très qui a de bonnes initiatives, disons. Et il passe L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne à 19h. Ça, pour le coup, si vous ne le connaissez pas, allez voir ce film. On va se faire mal, Arnaud, parce que...
Quel ouais. film
L'échelle de Jacob, un film horreur fantastique avec Tim Robbins.
J'ai vu qu'il ressortait en... Il ressort ouais. Apparemment en Blu-ray 4K, ouais. impeccable. Ah.
Et c'est un grand, grand film.
Très éprouvant, très déprimant.
Et très barré.
Mais très chouette quand même, voilà.
Et donc il passe, lundi.
Lundi à 19h, le 23 février, ouais, au Carme.
Au Carme. Eh ben, merci encore. On va laisser la place au binôme de Contreflot. Et donc nous, on se retrouve dans 2 semaines. On vous invite évidemment à aller au cinéma pour vous faire vos propres avis.
Il y a tellement de choses à voir, et mes amis.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Céline.
Merci Céline.
À toi aussi.
Et à dans 2 semaines.
À plus. Bye bye.